Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Urbania, Togo et l'actualité. Au programme, les hommes hétéros le sont-ils vraiment? 15 façons de briser l'isolement? Et peut-on guérir l'arthrose? Bonne écoute!
Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Un texte de Daisy Lecor paru le 11 avril 2023 dans Urbania. Avec un titre volontairement provocateur, surtout pour les mâles alpha de ce monde, Léane Alestra vient de publier un essai qui ne passe pas inaperçu aux éditions J.C. Lathèse, dont on salue l'audace. C'est d'abord pour tenter de répondre à une question qui lui prenait littéralement la tête que l'auteur, aussi créatrice du podcast féministe Mécréante, a choisi de consacrer une enquête sous forme d'essai pour tenter de repenser les identités masculines et leurs effets collatéraux sur nos sociétés. Sans parler du tabou de l'homosexualité masculine que Léane Alestra analyse habilement. À travers son ouvrage et dans une perspective queer, elle remet en question tout ce qui est entré dans nos mœurs, mais qui ne fait pourtant aucun sens. Si les hommes aiment tant les femmes, pourquoi ne s'intéressent-ils pas plus à l'amour romantique? Pourquoi sont-ils les principaux auteurs de violences faites aux femmes et autres féminicides, etc.? De Maupassant en passant par Jésus, Dracula, Becbédère, dont on décortique actuellement le dernier ouvrage en essayant de ne pas faire un AVC à chaque page, ou encore Victor Hugo, le livre de Léane Alestra décortique les ficelles sociales guidant nos désirs sans se limiter au seul champ de la sexualité. Comment l'idée de te pencher sur ce sujet t'est venue? Je me suis rendu compte assez tard que j'étais lesbienne. Avant ça, j'ai donc eu deux petits amis et en les fréquentant, j'ai commencé à me demander s'ils étaient vraiment hétéros. Rire. Je les questionnais beaucoup sur le sujet, jusqu'à ce que je sorte du placard. Il y avait clairement une part de projection dans mes questionnements existentiels, mais ça n'expliquait pas tout. J'ai également ouvert la conversation avec un ami bi racisé qui m'a parlé, sans tabou, de sa condition et de ce qu'il avait vécu. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et j'ai poursuivi la réflexion en discutant avec beaucoup d'hommes de divers horizons, pizzaïolo, cadres, rugbymen, etc., pour me nourrir de leurs expériences de vie. J'avais besoin de tout documenter. Enfin, j'ai participé à l'ouvrage collectif « Nos amours radicales ». Note de la rédaction. Le livre traite des relations de domination et des inégalités entre les hommes et les femmes. Et en faisant la promo, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de femmes hétéros qui venaient nous voir pour nous dire qu'elles faisaient la lecture de notre livre à leur mec et qu'elles étaient en souffrance de voir que leur partenaire s'en moquait un peu, comme s'ils n'étaient pas concernés par le couple hétéro. Ça m'a vraiment interpellé. Je n'arrêtais pas de me dire « Mais pourquoi est-ce qu'on court après eux pour qu'ils s'intéressent à quelque chose qui devrait les intéresser d'office? D'où ça vient? La question ne t'avait jamais traversé l'esprit avant? Si, à l'école déjà, je me rendais bien compte que l'histoire des hommes primait sur l'histoire des femmes, et qu'au final, mes potes gars étaient juste intéressés par l'histoire des grands hommes et n'en avaient rien à faire de l'histoire des femmes. Tous leurs désirs étaient concentrés vers les autres hommes, mais pourtant, la plupart voulaient quand même coucher avec des femmes. C'est ce paradoxe qui m'a interpellé très tôt, je m'en souviens très bien. Souvent, j'étais aussi la confidente ou la bonne pote de mes amis mecs et je voyais tellement de contradictions dans leurs discours. En écrivant mon livre, ça m'a choqué que personne, avant moi, n'ait vraiment rien écrit sur le sujet. C'est tellement flagrant. Et alors, d'où ça vient ce paradoxe? Je me suis juste concentré sur la société occidentale, car c'est compliqué de faire des généralités sur le monde entier. Mais disons que la contrainte à l'hétérosexualité est très récente et l'amour romantique, ça fait 2 siècles que ça existe. Avant, on se mariait pour avoir des enfants. C'était une entreprise économique et il fallait bien s'entendre avec son compagnon pour supporter la vie. Mais il n'y avait pas d'injonction à être amoureux. Il suffit de penser à nos grands-parents. Il y a toujours eu des sentiments amoureux. C'est l'humain, mais l'amour n'avait pas toujours un rôle social. Et il y a eu des périodes où c'était carrément la honte de s'intéresser aux femmes, car c'était des êtres inférieurs et si on passait trop de temps avec, c'était suspect. Comment réagissent les gens et les hommes en particulier qui lisent le livre? En général, les hommes se prennent une baffe dans la gueule parce qu'ils se reconnaissent dans ce qui est décrit. Ils voient tout de suite de quoi je parle. Ça leur coupe le sifflet, j'ai l'impression. Je n'ai pas encore reçu de message de haine, je touche du bois. Pourtant, je m'y étais préparé. J'ai même fait de l'hypnose et de l'EMDR avant la sortie de mon livre au cas où. Sinon, ma grand-mère, qui vient d'un milieu de droite assez populaire, a beaucoup aimé mon livre. Ça m'a fait plaisir parce qu'elle fait partie de mon public cible. J'ai aussi reçu de beaux retours de darons qui ont lu le livre grâce à leur fille. Ça fait plaisir. Et puis, certaines filles hétéros ont trouvé ça dur à lire, comme si d'un coup, elles réalisaient qu'elles avaient construit toute leur vie pour plaire à des hommes qui cherchent surtout à plaire aux autres hommes. Comme si elles réalisaient qu'elles étaient juste des outils de séduction pour plaire à d'autres hommes. C'est dur quand t'as bâti toute ta vie pour leur plaire. À ton avis, il faut faire quoi concrètement pour faire évoluer les mœurs et les mentalités? Dans mon livre, je parle d'actes de mutinerie. Se méfier des discours et passer à l'acte. Ça peut être hyper galvanisant. Se syndiquer, rejoindre une association, avoir un projet de quartier, etc. Il y a de nombreuses façons de lutter contre les systèmes de domination. Ça remet notre énergie créative dans des projets communs qui permettent d'être validés et reconnus. On a tous besoin d'amour et de validation sociale, sans oppression. Le régime hétérosexuel nous force à rester dans la sphère conjugale et à valoriser cet amour romantique. Ça nous empêche de développer d'autres liens comme l'amitié ou la solidarité qui sont pourtant des valeurs très importantes. Il faut vraiment miser sur des solutions joyeuses et épanouissantes. T'as confiance en l'avenir? On n'a pas le choix. D'autant que le régime hétéro fonde l'organisation capitaliste. C'est un sujet central pour repenser la société de demain. Si on ne se bat pas pour l'égalité, on va dans le mur. C'est une nécessité de survie, mais ça demande d'abord de déconstruire la dialectique du père. Et ça, ça peut être douloureux pour les hommes. Il faut toucher le fond pour mieux rebondir. C'était « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?» Un texte de Daisy Lecor paru le 11 avril 2023 dans Urbania.
Quinze façons de briser l'isolement. Un texte du Mouvement Santé Mentale Québec, paru le 25 avril 2023 dans To Go. On sait que bouger, c'est bon pour nous. Mais socialiser est tout aussi important pour notre santé. Voici 15 façons d'aller au-devant des autres et de cultiver notre sentiment d'appartenance. Trouver des façons intéressantes de passer du temps avec les autres nous permet de bâtir un système de soutien en plus de donner un sens à notre vie. Mais il n'est pas toujours facile d'entretenir nos relations et de briser l'isolement quand on est en télétravail ou que notre emploi est solitaire, ou même avec tout ce qui nous sollicite dans la vie de tous les jours. On vous propose quelques idées pour maintenir vos liens. Se connecter aux autres en télétravail. On aime beaucoup le télétravail, mais on s'ennuie des interactions avec nos collègues. On intègre quelques-unes de ces suggestions dans notre horaire. 1. Saluer nos collègues tous les matins. Ce n'est pas parce qu'on est chacun et chacune derrière nos écrans qu'on doit faire fi des politesses. Au contraire, que ce soit par courriel ou messagerie instantanée, on prend le temps de saluer nos quelques collègues les plus proches tous les matins et de prendre de leurs nouvelles. Ces quelques minutes passées à discuter de tout et de rien sont l'équivalent des conversations autour de la machine à café, un must pour la vie professionnelle. 2. Utiliser un groupe de messagerie instantanée. Il y a bien sûr les canaux officiels de communication de notre entreprise qu'on réserve au travail, mais on peut créer un groupe moins officiel sur Slack, Teams ou Discord et lancer des discussions sur des sujets plus légers. Faire des blagues, envoyer des gifs humoristiques, jaser de l'actualité ou de la dernière série télévisée qui remporte du succès, montrer les photos de nos enfants ou de nos animaux de compagnie, etc. 3. Partager un lunch en vidéoconférence. Manger devant notre écran n'est en général pas conseillé, sauf si c'est pour converser de façon informelle avec nos collègues à l'occasion. On apprend ainsi à mieux connaître le nouveau personnel ou à préserver des liens avec nos camarades de travail. Et on peut même partager des recettes ou jouer à des jeux pour faire connaissance, portraits chinois, cartes d'identité, questionnaires de Proust, etc. 4. Commencer les réunions sur une note personnelle. On commence les réunions par une anecdote personnelle pour se rappeler qu'on est tous et toutes des êtres humains d'abord et des travailleurs et travailleuses à distance ensuite. Ce n'est pas obligé d'être long ou compliqué, mais on le fait à chaque rencontre, histoire de ne pas se transformer en robot. Favoriser les liens dans un emploi solitaire. Si on fait par exemple du travail autonome, du camionnage ou de la production agricole et qu'on ne profite pas de la présence des collègues au quotidien, on peut adopter quelques habitudes pour se sentir moins à l'écart. 5. Opter pour le virtuel. Grâce aux outils technologiques, on peut communiquer avec des confrères ou consoeurs ou personnes avec qui on collabore, des membres de la famille, des amis et amieux, ou participer à des groupes de discussion sur différents sujets en lien ou non avec notre emploi. 6. Avoir des projets à l'extérieur du travail. On peut s'investir dans un projet avec une autre personne ou un groupe en dehors du travail pour créer des liens et renforcer notre motivation au quotidien. Il peut s'agir d'un loisir commun, de la préparation d'un voyage, etc. 7. Assister à des activités de réseautage. On reste à l'affût des événements de réseautage en présentiel ou en ligne, en plus de nous aider à développer notre réseau et à faire connaître nos services. Ces rencontres sont aussi l'occasion d'échanger avec des collègues sur d'autres sujets que le travail. 8. Sortir de chez soi. Pourquoi ne pas aller bosser dans un café ou un espace travail partagé, coworking, dîner ou casse-croûte du coin, prendre une pause pour jaser avec le voisinage, autant d'activités qui nous permettent d'être en contact avec différentes personnes. Maintenir des liens dans la vie de tous les jours. Si notre réseau social est mal en point parce qu'on a de la difficulté à l'entretenir dans notre vie quotidienne, voici quelques moyens pour l'améliorer. 9. Se joindre à un club. On trouve un club de lecture locale, un club de jardinage, un groupe de cuisine collective, etc. Bref, ce qu'on aime faire, histoire de rencontrer d'autres gens et de partager des expériences avec des personnes qui ont des champs d'intérêt semblables aux nôtres. 10. S'inscrire à un cours. Les municipalités proposent souvent des cours pour les adultes. On a peut-être envie d'en savoir plus sur l'histoire, l'art ou la photographie. Ces cours sont non seulement une excellente façon de nouer de nouvelles relations, mais en prime, ils permettent de garder notre cerveau vif et actif. 11. Faire du bénévolat. Qu'il s'agisse de faire profiter un organisme des compétences qu'on a acquises au cours de notre carrière, de promener les chiens dans un refuge pour animaux, d'aider un hôpital local ou de s'impliquer dans un comité de parents, le bénévolat peut nous procurer le sentiment de se réaliser et d'être utile tout en nous permettant de rester en contact avec la société. 12. Bouger en bonne compagnie. Rester physiquement actif ou active est important à tout âge, en s'abonnant à un gym, en s'inscrivant à une ligue sportive amicale ou en se joignant à un groupe de golf ou d'aquaforme, par exemple, on fait d'une pierre deux coups. Non seulement on améliore notre forme physique, mais on obtient également le contact social dont on a besoin. 13. Aider les autres. Si on souffre d'isolement, on peut rendre service aux membres de notre famille ou à notre voisinage en gardant les enfants, en cuisinant des repas qu'on va leur apporter, en amenant un proche à un rendez-vous médical, en déneigeant l'allée d'un voisin ou d'une voisine, ou en l'aidant à désherber sa cour, etc. 14. Trouver un emploi à temps partiel. On est à la retraite, pourquoi ne pas travailler à temps partiel? C'est un bon moyen de garder notre cerveau stimulé d'être en contact avec les autres. On peut choisir un emploi peu stressant et amusant et réduire nos heures au minimum. 15. Utiliser les technologies de communication. Les technologies de communication sont une belle façon de rester en contact si on vit loin de nos amis et amis eux ou de notre famille. Faire régulièrement des FaceTime ou des Zoom avec les personnes aimées permet de garder contact et de conserver ces liens importants. C'était 15 façons de briser l'isolement, un texte du Mouvement Santé Mentale Québec, paru le 25 avril 2023 dans To Go. Peut-on guérir l'arthrose? Un texte de Kathleen Couillard paru le 2 mai 2023 dans l'actualité. Médicaments, glucosamine, infiltration de cortisone, quelle est la stratégie la plus efficace pour traiter les symptômes d'arthrose? Quand on vit au jour le jour avec des douleurs aux articulations causées par de l'arthrose, on se pose inévitablement la question: est-il possible de faire disparaître les symptômes de cette maladie? Cette forme d'arthrite se caractérise par une usure du cartilage que le corps ne parvient plus à réparer. En plus de provoquer des douleurs, elle engendre de la raideur et peut restreindre les mouvements de la personne atteinte. L'arthrose, ça se guérit ou pas? Même si beaucoup de recherches fondamentales se font à ce sujet, à ce jour, rien ne guérit l'arthrose, affirme la docteure Véronique Godbout, chirurgienne orthopédique et présidente de l'Association d'orthopédie du Québec. Il est cependant possible de diminuer les effets de la maladie, souligne Benjamin Rondeau, physiothérapeute à la clinique du PEPS de l'Université Laval. Même si l'usure persiste, il y a moyen d'atténuer les symptômes, assure-t-il. En effet, certaines personnes ont beaucoup d'arthrose dans leurs articulations et ressentent peu de douleur. La docteure Godbout ajoute qu'il existe plusieurs stratégies pour améliorer le quotidien des patients. Au menu, le renforcement musculaire, les médicaments anti-inflammatoires, les analgésiques, les infiltrations de cortisone ou d'acide hyaluronique. Des orthèses peuvent aussi être utilisées, dit-elle, et en dernier recours, il y a la chirurgie. Comment soulager les symptômes? Les résultats de la recherche scientifique sur l'arthrose sont clairs, affirme la docteure Godbout. La sévérité des symptômes ne dépend pas du niveau de détérioration de l'articulation, mais plutôt de la masse musculaire. En effet, si les muscles ne sont pas assez développés ou ne se contractent pas de la bonne manière, chaque mouvement causera un déplacement inadéquat et un mauvais alignement de l'articulation, et c'est ce qui augmente les douleurs et l'inflammation. Les personnes qui souffrent d'arthrose devraient donc se tourner davantage vers l'activité physique pour gérer leurs symptômes, selon la chirurgienne orthopédique. Quand ils ont de la douleur, les gens ont tendance à marcher d'une façon différente pour se protéger, illustre Benjamin Rondeau. La raideur s'installe alors, la force musculaire diminue et les muscles ne peuvent plus supporter l'articulation. Et c'est ce que l'exercice physique peut améliorer. Un physiothérapeute peut nous aider à trouver les plus bénéfiques et le dosage approprié selon l'articulation atteinte. Marcher ou faire du vélo, par exemple, permet d'exercer une pression sur le cartilage des articulations des jambes et de le garder en bonne santé, ajoute le physiothérapeute. En effet, ces mouvements de pression et de décompression aident le cartilage à recevoir les nutriments dont il a besoin. Quels sont les médicaments indiqués? Les médicaments utilisés dans le traitement de l'arthrose aident à gérer la douleur et, ce faisant, à améliorer la fonction articulaire. La diminution de la douleur et de l'inflammation permet en effet d'être plus actif et donc de renforcer les muscles, ce qui est bénéfique pour l'articulation. Il y a les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène et les analgésiques comme l'acétaminophène, précise la docteure Godbout. Ce sont les deux médicaments de base à essayer pour soulager la douleur. Vous écoutez « Peut-on guérir l'arthrose ?» un texte de Kathleen Couillard, paru le 2 mai 2023 dans l'Actualité. Quand cette dernière devient trop importante, par exemple lors d'un épisode inflammatoire, une infiltration de cortisone peut aussi être indiquée. Cet anti-inflammatoire injecté localement permet d'éviter de consommer trop d'anti-inflammatoires en pilules qui ont des effets sur les autres organes, souligne la docteure Godbout. Cela aide aussi à diminuer rapidement l'inflammation pour de 2 à 3 mois. Et le patient peut alors en profiter pour renforcer ses muscles par l'exercice. Il est également possible de recevoir une infiltration d'acide hyaluronique, une intervention appelée viscosuppléance. Selon la docteure Godbout, ce traitement a un effet positif sur la douleur qui dure plus longtemps que la cortisone. Cependant, il n'est pas remboursé par la RAMQ, contrairement aux infiltrations de cortisone. Y a-t-il des produits de santé naturelle efficaces pour soulager les symptômes d'arthrose? Une carence en vitamine D peut aggraver l'arthrose, souligne la Société de l'arthrite du Canada. Les suppléments peuvent donc être utiles si l'alimentation comporte peu d'aliments riche en vitamine D ou si l'exposition au soleil n'est pas suffisante pour que le corps en produise naturellement. Pour ce qui est de la glucosamine et de la chondroïtine, même si ces substances sont présentes dans nos articulations et contribuent à maintenir le cartilage en santé, les études cliniques n'ont pas démontré l'efficacité de ces suppléments pour prévenir ou soulager l'arthrose. Aucun de ces produits naturels n'est recommandé à proprement parler, confirme la docteure Godbout. Et certains patients les essaient et disent que ça fonctionne. Mais est-ce que ça les aide vraiment ou est-ce qu'il s'agit d'un effet placebo? On ne le sait pas. La Société de l'arthrite du Canada a préparé une liste des principaux suppléments sur le marché, de leurs effets escomptés et des contre-indications qui permettent de s'y retrouver. Une personne qui le souhaite peut essayer ces produits, ajoute le docteur Godbout. Elle souligne toutefois qu'ils sont très chers à la longue et si quelqu'un a de l'argent à dépenser, il vaudrait mieux l'investir dans un programme d'exercice. Y a-t-il des aliments à privilégier ou à éviter? Aucune étude n'a démontré de façon convaincante que des aliments peuvent améliorer ou aggraver les douleurs articulaires. Cependant, certains peuvent avoir un effet bénéfique sur l'inflammation ou renforcer les os, les muscles et les articulations. Alors, c'est le cas des poissons gras, de certaines noix et graines, ainsi que de l'huile d'olive, entre autres, précise la Société de l'arthrite du Canada. L'organisation rappelle également que le surpoids augmente le risque d'arthrose et accélère sa progression. Elle recommande de réduire la consommation de matières grasses saturées, de gras trans et de sucre, et de manger beaucoup de fruits et de légumes. Avoir une bonne alimentation est très important dans la prise en charge de l'arthrose, confirme Benjamin Rondeau. Et consulter une nutritionniste peut être utile si on a besoin d'être guidé sur ce plan. Quelles sont les conséquences possibles si l'arthrose n'est pas traitée ou suivie? Ne pas traiter une maladie arthritique comme l'arthrose peut causer des lésions ou des changements permanents dans les articulations. Je vois beaucoup de gens en clinique qui ont mal depuis 10 ans, raconte Benjamin Rondeau. Ils ont alors déjà une perte de mobilité et de muscles. Idéalement, il ne faut donc pas attendre d'avoir trop de douleurs avant de le consulter, car la prise en charge sera beaucoup plus difficile. Une évaluation rapide permettra aux professionnels de suggérer un programme d'exercice simple pour conserver la mobilité et une bonne force musculaire. Consulter sans tarder aide également à faire les bons gestes dès le départ. Par exemple, beaucoup de gens avec un diagnostic d'arthrose arrêtent de bouger car ils ont peur de se blesser, déplore le physiothérapeute. Au contraire, la meilleure chose à faire quand on a de l'arthrose, c'est de garder un mode de vie actif et de stimuler la musculature et l'articulation. C'était « Peut-on guérir de l'arthrose ?» un texte de Kathleen Couillard, paru le 2 mai 2023 dans l'Actualité.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.usevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau et Serge Hamelin à la lecture, André Lebeau et Daniel Veillette à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.